Peur et désir des gens des villes. L'œil d'abord ne percevrait rien, ne ferait pas la différence entre la ville ancienne et le quartier moderne, suivrait le fil des façades sans rien noter de particulier. Il ne détecterait pas l'extrême nouveauté des constructions. Autrefois, il n'y avait ici que des amas de terre, de gravats, il s'en souvient pourtant. Il chercherait l'avant, une trace sur le trottoir de ce qui a précédé le chantier. Un écho le long des voies, des réunions, décisions, des annonces faites aux habitants. Il y avait eu, voilà ce dont peut-être il se rappellerait, le désir oublié d'un projet initial devant les hectares de vide, de vent, de bâtiments abandonnés. Des concertations auprès des habitants pour savoir qu'en faire. Puis, la recherche de partenaires, des accords, des enthousiasmes renouvelés avant les ajustements impossibles à éviter, les adaptations aux réalités concrètes du terrain, tandis que chacun s'activait, qu'on mettait déjà sur le marché les appartements à venir. Après la création d'une société dédiée et d'un comité de pilotage, le dessin de rues inventées, il y avait eu des plans d'immeubles, de commerce, de bureaux et d'écoles, le choix de lieux de repos et de loisirs. L'œil se souvient surtout, sans que l'esprit en ait conscience, d'un assemblage d'équations, de problèmes à résoudre, d'inconnus, de réponses ingénieuses ou par moments lassées, des panneaux et des palissades, des esquisses pastels de familles idéales, d'arbres déjà poussés, du nom choisi pour le quartier, un nom à consonance multiple qui induit l'attractivité mais aussi la douceur, l'air pur et même une certaine connivence envers les premiers habitants. De la ville d'origine, on espérait qu'elle accepterait d'absorber, de prendre sous sa protection cette extension de toute pièce. Il y eut, et là il n'est plus possible de le refouler, l'esprit n'y parviendrait pas, un automne, un hiver, puis le printemps permanent. L'arrêt sidérant de l'activité humaine. Le travail lent du naturel sous la terre et parmi les briques, sous les écorces et dans les murs. Le flambant neuf, l'œil ne le trouverait pas, ne saurait pas le détecter, pas encore, pas tout de suite. Par désir secret de ralentir le rythme, et même de figer l'image pour mieux s'y promener. Ce que l'œil voudrait, c'est entrer dans le décor par ses strates de temps, pouvoir naviguer dans le passé du quartier, dans son avenir peut-être, comme il le ferait sur Street View. Ne pas voir tout de suite, en simultané, le projet finalement achevé. Ne pas dénombrer, analyser les réussites, adaptations et compromis, les rejets, les échecs. Se laisser porter. Devant l'écoquartier réel, avant d'y pénétrer, l'œil voudrait le rêve de l'écoquartier, celui qu'un enfant, un passant, un animal peut-être, aurait esquissé devant le terrain vide. Il anticiperait une nouvelle ville nouvelle, avec respiration, surprise, détours et manèges. Il creuserait des sillons, sèmerait, attendrait la récolte en écoutant la route, la pluie qui piquerait la surface des flaques. L'œil voudrait, sans savoir encore s'ils existent, les fantasmes d'écrins, de clairières promis par les premières brochures. Une ville à la lisière de la jungle et du parc, conquise par des insectes que leur nom protégerait. Le criquet de Barbarie, le callosome à pois d'or, l'agrion mignon, l'azuré des cities, le grand diable, le bombix des buissons, le bourdon des friches, le méloé printanier. L'œil ne saurait pas les reconnaître, mais espérerait que l'esprit les aime, ces noms, en savoure l'écho. Simplement, il y aurait la cendre, et sous la cendre déjà, les étincelles, flamèches de mots détournés pour la peur, des frottements, des crépitements, un mot lancé, puis, presque aussitôt, des torches, des flammes, des foyers de phrases qui se répandent, éblouissent dès qu'elles désignent, éblouissent et brouillent, font monter les larmes, rendent flou. des mots indécidables dont on ne sait ce qu'ils disent ni comment les interpréter. Des mots balayés par des chiffres balayés par des mots. Des douceurs, des injures logées dans la même phrase. Du vocabulaire de haut vol mêlé à d'autres phrases, du langage de bébé, de guerrier, pesant son poids de siècle. Les mots mécaniques de la peur. Des phrases repérables, mais douées pour l'ivresse, qui bouillonnent, se propagent. Ce qui étouffe après la combustion, fait suffoquer les terres. Ce qui prive le vivant de son instinct de survie, soumis par le rendement, par l'envolée des cours qui chutent à même vitesse. Des mots toujours les mêmes, qui surprennent pourtant, viennent agresser la peau et percer les tympans. Des mots tapis, réflexes. Voilà ce qui, partout, se serait attaqué au corps, à ses réserves de langue et de rêverie subtiles, aurait atrophié l'air et détraqué l'esprit. Resterait l'œil. Devant lui, un panneau de sens unique et le soleil de midi frappant contre la tôle. Plus loin, une fenêtre entr'ouverte, d'où s'échapperait de la musique. Entre les deux se dresserait, s'étalerait plutôt, un espace non calculé, un je ne sais quoi d'inachevé, de pas bien net, contenant en vrac un garage, une clôture, un lampadaire, un tas de gravats. Quelque chose qui déparerait. Des éclats, des débris, mèneraient à un grillage déchiqueté, une fine structure de fer, où l'œil repérerait, parmi les ombres, ce que le panneau nommerait un îlot de fraîcheur. Au début, l'œil ne se risquerait pas. Il longerait le trottoir, suivrait de loin en loin le mur délimitant l'îlot, le cachant au regard. Entre les briques, les pierres qui se succéderaient, il découvrirait des plantes, timides d'abord, puis en cascade. L'œil ne les nommerait pas. Il engloberait le tout dans une expression du type « mur végétal » ou « végétalisé » qui lui reviendrait à l'instant. La main, elle, serait tentée de glisser entre les tiges, les mousses, de caresser les feuilles. Moiteur, profondeur, délectation, surprise, le corps s'approcherait, réjoui de ce changement de programme. Au risque de se faire repérer par l'esprit, il entamerait une danse, un tangage léger, du pied jusqu'à l'index. Porté par le vent, la musique hésiterait. Répéterait un accord, reprendrait sur un autre rythme. Des doigts buteraient sur des touches. L'oreille croirait y reconnaître ce que l'esprit appelle l'improvisation. Avec un peu de mépris, aurait toujours perçu l'oreille. Et tandis que le pied avancerait, que la main frôlerait un pétale, l'improvisation prendrait place, tenterait une incursion en lisière de l'écoquartier. Des briques, des notes, quelques brins d'herbe. Ce qu'il faut de béatitude pour oublier la peur, voilà bien le mystère, penserait le corps en longeant le mur, en cherchant à l'escalader. À ce qu'on dit, en réalité, il ne faut presque rien, suggérerait le cœur. Pour résister à l'inquiétude, il suffit de... En temps normal, j'aurais su répondre, couperait l'esprit. Mais qui a parlé de temps normal ? Soupirerait la bouche, tandis que la main chercherait à soulever le buste, les hanches, un genou aux prises avec une pierre, avec le désir d'ascension du corps, de l'œil, de l'esprit peut-être. Le corps, depuis le début, voudrait s'éprouver, chercherait santé et vigueur. Il imaginerait une ville à sa mesure, celle de sa peau et de sa maison, contenant ses amours, de quoi circuler, un potager, une cave, une cachette secrète. L'œil, lui, demanderait le paradis. Il lui faudrait les palmiers, l'oasis, le turquoise et l'émeraude des rêveries de l'enfance. Il ne craindrait ni le chemin incrusté de pierres précieuses, pourtant dures à la plante des pieds, ni les bosquets d'épines pour approcher des roses. C'est simple, il ne les verrait pas. Il voudrait le puits de Blanche-Neige, le terrier du lapin d'Alice, le tapis d'Aladin et sa lampe surtout. Il voudrait que tout soit magique. Que l'homme dans la nature fasse pousser des villes et qu'elle s'accorde à ce qui les précède, sans effort, sans besoin de détruire. Est-ce que ce serait simple? Pourquoi non? Dans les contes, il suffit de désirer et de dire son désir. Croirait-il se rappeler? On ne prend pas de force. On ne fait pas main basse. Il suffit de demander. Par la fenêtre ouverte, la musique continuerait, explorant l'alentour. Et si cette musique donnait au paysage son rythme, sa cohérence? Si on pouvait, grâce à elle, poursuivre la rêverie, épurer les trésors, n'en garder que l'émerveillement. Imaginez des maisons vagues, couvertes de verdure où se protéger du soleil, au seuil desquelles onduleraient des bandes de prairies. Accepter une géométrie aléatoire, un dessin d'abord au cordeau, ayant pris son indépendance. Des toitures végétales sur lesquelles on pourrait courir, des balançoires, dont le mouvement donnerait de l'énergie à celui qui en use comme à celui qui regarde. Des baignoires d'eau de pluie, des hangars devenus forêts, des bicoques sans destination, des tuyaux goutte à goutte pour irriguer la ville, revenir au point de départ. Partout, à hauteurs différentes, des vivaces, des algues, des souches, des nichoirs. Maintenant, juché sur le mur, à l'abri dans le corps bien stable, l'œil se dessillerait. Il ne verrait pas grand-chose encore parmi les branches, mais oublierait sa chimère enfantine, dirait plutôt « Ok, îlot, c'est un mot que j'accepte, car je vais me l'approprier. Il englobera le garage, le lampadaire et les débris, même les plus inusables, car ils m'ont conduit jusqu'à lui. On y trouvera le mur, les herbes, les arbres et tout ce qu'il me cache, prévu ou non avant le printemps perpétuel. » L'îlot sera ce que j'y verrai et tout ce que je déciderai d'y mettre. Il suffira que les éléments soient liés, même par un espace vide, un silence, un écart. Est-ce que ce sera simple? Bien sûr, tout est là, dans l'immense et le minuscule, rêvera l'œil, satisfait malgré l'absence visible de lampes à frotter, de lingots, de soieries. Les insectes ont des noms aussi beaux que les pierres, rappelons-nous. Est-ce que ce sera simple? Bien sûr, si personne ne te surveille, se moquera l'esprit. Ce qui était prévu avant l'arrêt de l'activité humaine, tu veux que je t'en parle? L'œil, la main, la bouche, l'oreille, le corps entier passerait le mur. L'esprit, lui, resterait sur place, ou plutôt serait parti aux fraises, comme aurait dit la langue. Personne pour l'écouter, l'esprit. Perdu dans sa mémoire tenace, qui semble suggérer le pire. Personne pour suivre sa trajectoire. Comment comprendre ce qu'il veut? Savoir s'il conseille ou menace? Ainsi serions-nous face au mur. Paumes à plat, bras raidis, le corps s'apprêterait à sauter. Mais ce serait compter sans la langue. Tenace, menace, tiens, des rimes. Noterait-elle, stoppant le mouvement du corps et de l'esprit avant de réaliser que la bouche restait ouverte. La langue. Ce petit monstre idiot qui ne pense qu'à jouer s'énerverait le corps. Pourtant, lui-même aurait un temps de retard. S'il restait là, bouche bée, assis sur le mur, c'est qu'entre les branches, face à lui, du côté de l'îlot, un panneau viendrait d'apparaître. Attention, stockage de cendres, de lave, de plomb. Vous entrez ici à vos risques et périls. Stoppé dans son élan, ce serait un choc pour le corps. Cendre, lave, plomb, ce sont les mots de la peur, non? Hypnotisé, l'œil commencerait par s'étonner. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'y voit que du vert pourtant. Des feuilles, des mousses, des brins, des palmes, des lentilles d'eau, énumérerait-il pour s'en assurer. Risque, péril. Par association d'idées, l'esprit dans un éclair se souviendrait de l'amiante. Au début du chantier de l'écoquartier, on en avait détecté, puis évacué, se rappellerait-il, ce qui avait retardé les travaux. On avait pris le temps de le faire. Seulement, évacuer où? Éliminer comment? Par rebond, d'une bouche à une oreille, d'un réseau à un autre, il aurait eu accès à certaines informations. Il aurait entendu parler d'installation de stockage de déchets dangereux, où l'amiante aurait été dirigée. Mais le sigle, SISDD, serait resté un sigle qu'il aurait oublié, n'étant pas vraiment de la partie. Les mots, comme leurs initiales, se seraient effacés. L'esprit n'aurait jamais su ni où ni comment avait disparu cet amiante. Y avait-il un rapport? L'ISDD, ce serait ça? Cet espace devant soi, déserté par les hommes, caché par la végétation? Ce que l'œil, aveuglé par la luxuriance, par son désir d'oasis, appelait l'îlot? Ne voir que le fond du verre, ou ce qui en déborde, c'est ainsi que renaît la peur. Encore. Toujours. Nous sommes face au mur et de l'autre côté sans le savoir. Nous ne sommes, sans le savoir, ni de dos, ni de face. Nous sommes, sans le savoir, le mur. Nous sommes les deux côtés, les deux faces d'une même pièce, prêts à construire, détruire ce que nous construisions pour reconstruire encore des blocs où on s'entasse, des espaces restés vides. Nous sommes coupés du monde. Nous sommes envahisseurs, occupants oppresseurs des océans, des terres. Nous ne faisons rien d'autre que déplacer le problème. Stockage de cendres, de lave, de plomb. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Se serait mis à penser le front, prêt à lancer une migraine. Pour couper court aux agitations, le cœur et les nerfs étant, selon eux, incapables de s'unifier dès qu'un doute se présentait, le pied et la jambe auraient péroré. Cendre, lave, disons qu'il représente une idée de la pente, de la pétrification, avant de sauter dans le vide, entraînant le reste du corps vers l'idée d'un volcan qu'il s'agirait de gravir. Affolé, le corps aurait voulu stopper le geste, comprendre d'où venait la témérité de ses membres du bas. Non, sans ressentir une pointe de fierté de ce désir d'aventure. Fierté qui l'étonnait. Lui qui n'avait, de sa vie, jamais pu tirer vanité d'aucune partie de lui-même, n'étant pas ce qu'on appelle un corps, ni bombe atomique, ni armoire à glace. Mais où en étions-nous? C'est fini de diverger? Nous en étions au corps, à l'action, à l'idée d'un volcan. Nous avons perdu l'esprit depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes perdus. Qui a franchi le mur en réalité? Est-ce un homme, une femme, un habitant, un étranger? Qui parle ici? Et de qui parle-t-on? Est-ce qu'on va finir par l'apprendre? Silence. Désunis, suspendus dans le mouvement, l'esprit et le corps se jaugent. À quel point l'autre se révèle, encore, toujours, incapable de répondre aux questions les plus simples, voilà qui les fascine. Les fiche dans le miroir qu'il ne cesse de se tendre. Il se juge, il s'entrave, il s'empêche d'avancer. Pourtant, pour savoir qui franchit le mur, ce n'est pas compliqué. Il suffit de revenir en arrière, de rembobiner le fil, comme on le fait dans les contes. Il était une fois une planète colonisée par une espèce dominante, prête à s'auto-détruire pour ne pas changer la donne, risquer de céder du terrain. Une espèce consciente de sa folie, mais refusant de l'admettre. Plutôt crever que de laisser une place au reste du vivant, animal, végétal, minéral, humain plus ou moins utile et moins bien doté, disait-elle sans le dire. Plutôt crever? Mais non, elle n'en était pas là, ou du moins le croyait. Il se murmurait que, depuis longtemps, certains se construisaient des bunkers, à l'abri dans des îles lointaines. Pour ne pas dire « bunker », certains disaient « îlot », et qu'il serait pour tous, ou presque, quitte à susciter le désir, la peur et ce qui les relie. Il était une fois un printemps perpétuel contenant en lui toute canicule. Par hasard ou rapacité, par virus interposé, ce printemps avait provoqué l'arrêt de l'activité humaine, arrêt dont lui, l'humain, ne pouvait prévoir ni les rebonds, ni à terme les conséquences. Quelle nouvelle forme pour son travail, sa façon de s'agiter, de produire? Quel résultat pour la prise en compte du vivant? Il était une fois ce que nous n'avons pas dit, pas su dire, pas encore. La progression de l'activité humaine, son arrêt et sa reprise, nous avait brisés net, en très petits morceaux. Nous tous, ceux d'en dessous, sans réseau rassurant, sans trésor de côté. Dans la course au bunker, nous avions perdu ce que nous pouvions perdre, à commencer par la quiétude, à commencer par le sommeil, à commencer par le corps à son aise, par ce qu'il nous restait de jeunesse, par nos liens d'amitié, la gratuité de nos gestes, par nos espaces intimes, par notre éthique, le sens de nos missions. Oh, les grands mots, nous jetait-on au visage en riant, en grinçant toutes dents dehors, comme si nous ne savions rien de leur signification. Nous n'étions pas naïfs, ni héroïques non plus. Nous n'avions rien à perdre. C'est ainsi que nous avons franchi des frontières. Nous avons survolé des champs, regardé les villes immobiles. Nous avons choisi la rêverie puisque le réel était flou. Nous avons gratté la surface. Nous avons sauté des barrières. En longeant les parkings vidés de leurs voitures, les écoles sans élèves, nous avons inventé des ruelles, des impasses, des quartiers entiers. Nous ? Qui ça, nous ? Qui ça, vous ? Nous sommes les vulnérables. Avons-nous répondu à cette question-là que personne ne posait ? Nous sommes les réceptifs, les chancelants, les songeurs, ceux qui ruent dans les chiffres, les ratés de la machine. Nous sommes les réfractaires au jugement par-dessous, ceux qui restent sensibles à l'air et à l'instant. Nous sommes les pensifs. Nous sommes les fredonneurs. Ceux qui tordent le cou à ce qui leur fait peur en tissant une toile. La peur se laisse prendre, on la dissèque, clac, c'est fini. Nous sommes qui ne se laisse pas griser par ces mots-là non plus, ne s'en fait pas une médaille pratique pour parler fort, qui ne commence pas toute phrase par « nous sommes », comme si rien, entre nous, ni en nous, n'allait venir regimber. Qui ne se laisse pas berner par l'ironie facile non plus, celle qui cloue le bec, oblige à s'aligner. Nous sommes arrivés devant un lieu en construction qui nous rappelait quelque chose. Un premier panneau nous a indiqué la présence d'un écoquartier. Écoquartier. Le mot s'était multiplié juste avant le printemps perpétuel. On n'aurait pas su situer celui qui paraissait devant nous. Le GPS ne fonctionnait plus. Il fallait se repérer à l'œil. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Nous avons continué de marcher. Un peu plus loin était indiqué présence d'un îlot de fraîcheur, avec parcours fléché pour les futurs acheteurs, pour les visiteurs du chantier. Brusquement, tout nous est revenu. La ville ancienne, le futur flambant neuf, le projet de construction, les maquettes, le chantier, le choix des matériaux pensés pour le recyclage. Un lampadaire éteint, un garage fermé, un grillage déchiqueté. Nous avons cru y voir notre terre de secours. Nous nous sommes approchés. Il était une fois des îles lointaines. Voici l'œil sur le seuil, même s'il s'agit d'un mur. Voici le lieu de son désir. Il n'en imagine plus d'autre. Mais que faire maintenant que le danger s'est rappelé à lui, que la peur s'est réinstallée ? Il bute contre la pierre, la brique. Il cligne, il pleure. Il voudrait ne pas scier, mais c'est impossible. Heureusement, l'oreille vient à son secours. Plomb, lave, cendre, d'accord peut-être, mais personne n'a parlé d'amiante, en dehors de l'esprit dérangé, rappelle-t-elle, toujours guidée par la musique. Par moments plus stridentes, encore que le mot ne soit pas le bon, car rien n'écorche, ne blesse, quelques notes s'échappent d'une fenêtre. Elle donne sur un verger, précise maintenant l'oreille. Comment le sait-elle ? C'est une question d'approche. À entendre la musique, on croit cueillir un fruit. Vaste, lente, d'une délicatesse infinie, la musique contient le monde, se réjouissent le cœur et le ventre. Le pied danse, la jambe suit. Mais l'esprit ne se laisse pas faire. Acheter, jeter, recycler, vender, bander, renouveler, trier, voter, changer, oublier, bouger, adhérer, payer, écouter, taiser, soyez responsable, assumer, léser, détourner, changer, déléguer, couvrir, ne sortez plus, sortez, faites-nous confiance pour la protection des espèces et rendez-vous à l'ISDD. La voilà ta musique, envoie-t-il au corps. ISDD ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Un instant. Gardons le pied en l'air et la main dans le vide. Les sigles, en général, appartiennent au groupe des mots mécaniques. Fatigants à retenir pour ceux qu'ils ne valorisent pas. Difficiles à aimer quand on ne les trouve ni rapides, art du raccourci, ni smart, art de l'écrasement. Le discours mécanique lui-même se présente comme un ensemble qu'on ne peut habiter, dont on ne peut faire ni son nid, ni son miel, sauf à jouer un peu. ISDD, Institut sommaire de la diction dangereuse. Instruction sinueuse des données diverses. Inventaire successif des déclarations et dommages, etc. Dans le discours mécanique, une nébuleuse de termes contraires, pourtant capables de permuter, s'agite. Une suite de mots dont le sens premier s'est perdu pour aller signifier l'inverse, sans laisser le temps, on dit plutôt le loisir, et ce n'est pas pour rien, au peuple de les contredire. On dit le public, ce n'est pas un hasard. La maison brûle, hurle-t-on à ceux qui écoutent. Ils le voient, merci, ils ont les pieds dans le brasier. Et puis, on sait faire, suivez-nous, on ne sait pas, ne sortez plus. Le public est massé, nassé sur son tas de cendres, et il attend la suite. À qui ? À quoi se fier ? On éloigne l'incendie en remettant des bûches, entend l'oreille qui capte les courts-circuits. Silence. Elle a besoin de l'esprit pour en dérouler le sens, mais la langue l'a dit, il est aux fraises l'esprit. Il vogue entre déni et justification. Des voix se lèvent. Elle les entend. Elle envoie des signaux au corps, maux de ventre, maux de tête, mais l'esprit reste fixe, figé par la peur. ISDD, il cherche. Infection sanitaire, détection des désastres. Non. Inspection des sinistres, dégâts et destructions. Toujours pas. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Vient demander la mémoire. Ah, voilà. On approche. Ce qu'il dit, le printemps perpétuel, nous le savons déjà par cœur. Rien d'autre que « alerte !» besoin impératif d'une dérivation. « Alerte !» d'un espace placide, de temps pour se soigner. « Alerte ! Alerte !» de ne plus couper les arbres, forer le gaz de schiste, ni préférer l'avion quand le train est possible. « Alerte !» transporter en avion ce dont personne ne veut. Alerte ! Créer de faux besoins. Garder les pesticides ni gaver de plastique l'océan de la planète. Alerte ! Alerte ! Rien d'autre que l'évidence, mille fois répétée. Se remettre à marcher et se couper du monde plusieurs heures par jour, si c'est cela qu'il faut. Penser que ce qu'il faut, c'est pour tous l'accès aux conditions qui permettent de dire non quand c'est non qu'il faut dire. Ne pas appeler inutile celui ou celle qui produit peu. Au contraire, besoin de peu, de moins, de rien, de calme, d'un assoupissement, ou plutôt d'un éveil, comprend toute femme et tout homme pourvu d'un esprit et d'un corps, d'une langue qui lui appartient. Comprenons-nous. Mais la peur tient au corps comme elle agite l'esprit. Elle est là, à l'affût, dans nos désirs sans fin de croissance des choses, à la merci des canicules, des pandémies, de l'eau qu'on empoisonne malgré l'expression « îlot de fraîcheur ». Elle n'est pas sans objet. Au contraire, le monde court à sa perte dans des villes qui n'en finissent plus. Et l'homme épuise toute énergie, même celle qu'il appelle « énergie renouvelable ». L'esprit le sait très bien. Et il sait qu'il faut le dire. Mais il pèse ses mots. Face à la peur suprême, l'immense peur de manquer. Cette peur immédiate du travail perdu, de l'argent qui ne rentre plus, de la rue qui se profile autrement que sur les maquettes, les projets de papier glacé. Remettre en question la croissance, c'est comme déplacer un cadavre. ça soupire pourtant, dans l'îlot retrouvé. Pourrions-nous avancer? La rouille, depuis le début, dévore le courage ou ce qui en tient lieu, dit le cœur qui poursuit, bon gré, mal gré, malgré la lave inerte et les cendres douceâtres, son travail de cœur. Il bat, le fait est, il bat. Il continue de battre sur la crête du volcan ou la maison en feu. On ne sait plus à force, les images sont floues dans les miroirs sans fin. Ce ne sont que des images. Il bat encore un peu. Soupir, silence, le cœur bat, c'est un fait. Sans lui, l'oreille se foutrait de la musique. La paupière de l'œil aurait baissé le rideau. S'il y a, comme on l'a dit, le désir d'une exploration, c'est que quelque chose bat, malgré l'arrêt du temps et de l'activité. Quelque chose d'innommé, fait de vent et de cordes. Dans l'îlot, brusquement, tous et chacun se cherchent. La peau, les veines, le sang, le sexe, les lèvres se réveillent, sortent de leur torpeur. Entends, c'est de la musique par la fenêtre ouverte, réexplique l'oreille. Et le monde du corps suit le pied et la jambe pour tâter le terrain. Tant pis, décide l'œil. J'y vais. L'oreille se dresse encore, tandis que l'œil furette, voudrait être partout. Le cœur de l'écoquartier, c'est, pêle-mêle devant lui, des buissons, des greniers. C'est un entrelac de bâtiments à moitié commencés où la nature prospère. Ce sont des tas de sable, des fossés, et l'esquisse d'un tiers-lieu qui aurait servi de grange comme de salle de tango si quelqu'un l'avait regardé, avec l'amour voulu. Ce sont des plans oubliés, calés sous une pierre. C'est une rue principale bordée de ronces. C'est sa vie souterraine, menant jusqu'au gymnase, devenu malgré lui et mieux que lui peut-être, un village à oiseaux. Le cœur de l'écoquartier, c'est l'îlot que l'homme n'a pas eu le temps de finir, ni peut-être d'inventer. C'est une peinture de ruines post-post-moderne, accueillant toute espèce vivante. La musique y passe comme une flèche. Qui va là? Nous sommes des enfants. Nous avons peur des coups. La musique se faufile, fait entendre des crissements. Des doigts, des touches, naissent un suspens. Une attente inconnue. Chaque note façonne le silence qui la suit. Qui va là? L'esprit se tend. Le cœur bat. C'est un silence qui déconcerte, procède par ramification. Il dessine les branches de l'arbre sous la fenêtre, les circonvolutions de l'esprit qui ne sait plus à quelle sainte se vouer, sainte production, sainte consommation, sainte économie, sainte énergie fossile, sainte immédiateté, sainte connexion, sainte épidémie, sainte guerre. L'esprit finit fondu, grillé. Mais le regard dérive, l'oreille voit. Ce silence, c'est le saut d'une branche à une bête. C'est ce qui reste quand le reste est perdu. Voilà ce que nous comprenons peut-être, juste après le saut dans le vide. Devant nous, dans l'îlot, le fouillis d'ortie ne nous décourage pas, s'ouvre sous nos pas, comme dans les contes. Nous sommes des enfants. Nous avançons, craintifs. Nous voudrions faire masse, mais être seuls aussi, ou en très petit nombre. Combien sommes-nous? Nous nous croyons uniques devant le panneau de danger, mais c'était un leurre. Les caméras sont à l'arrêt. Les corps éparpillés ne laissent plus de traces. Nous sommes des enfants à espérer la ligne. Qui va là? Nous. Dans la peur de ne pas trouver notre place, de faire un avec le trottoir, nous nous exhortons, exaltons, nous scandons, répétons qu'il nous faut prendre soin de nous, de nos familles, de nos murs, de nos arbres, des chaussées, des carrefours, des allées, des commerces, du centre, des alentours. Nous sommes des enfants. Voudrions que quelqu'un le fasse à notre place. Celle-là même qui reste inconnue. Pour laquelle nous luttons. Place, place! Nous sommes des enfants. À attendre les ordres. Nous bégayons, souvent, nous hoquetons de peur. La nouveauté nous tyrannise. Nous voulons être rassasiés. Il nous faut du sucre et de l'ouate. Nous voulons être pleins, tout gorgés et farcis, sans un atome de moins, et pourtant si légers. Nous voulons deux poids, deux mesures, tous les poids, toutes les mesures, empaquetés ensemble, emboîtés, bien compacts. Nous avons été avertis pourtant. Pour obtenir une place, être sûr de la garder, il faut être soi-même. Et pour être soi-même, dépasser ses limites. Et le monde alors? La planète? Nous sommes des enfants. Nous n'écoutons plus rien. Qui va là? Nous et l'îlot de fraîcheur, qui malgré son nom de code va peut-être tenir ses promesses. On trouverait un jardin avec labyrinthe, un ciel japonais couronné de neige. Apparaîtrait le volcan au loin. On dénicherait des sources, oublierait les villes saturées, les déserts, les parcs d'attractions. L'œil se fermerait, renaîtrait le désir. Nous sommes des enfants sensibles à l'invisible. Qui pour chanter nos tours de force? Ne pas se laisser happer, guidé par la rancœur, la peur renouvelée d'avoir raté sa chance, de ne pas être utile, de ne pas savoir survivre, voilà ce qu'il faudrait se dire. Ne pas se laisser emboîter dans un corps trop rigide pour ce qu'on voudrait vivre, une image de soi au bord de la rupture, tandis que la ville pousse, étend ses entrelacs dans un scintillement qui évacue la nuit. Plus de nuit, plus jamais, plus de silence non plus dans les zones urbaines. Comment faire pour rêver? Poids, taille et harmonie, ou laideur, ou disgrâce, âge, couleur, souplesse, adaptation, maîtrise, vitesse de réaction. Ne pas se laisser dire qui on est à la seconde, circonscrire ni identifier, ni grignoter, ni bouffer cru, voilà ce qu'il serait bon d'entendre. Ne pas laisser les mots se substituer à d'autres, au langage mécanique, quand c'est ce qu'il nous faut pour comprendre l'état du monde. Descendre à la prochaine, même si ce n'est pas la sienne. S'ébrouer comme un chien. Laisser le train repartir. Respirer sur le quai. Chercher l'eau, chercher l'ombre. Que l'été perpétuel ne puisse pas advenir. Qui va là? Nous sommes des enfants à ne pas attendre les ordres, partout où c'est possible, pour ne rien regretter. Qui va là? Voilà qui. D'accord, joli programme. Nous nous félicitons de l'élan retrouvé. Nous remercions le chemin qui s'esquisse sous nos pas. Mais quand même, avant de poursuivre, il faudrait s'entendre sur la peur pour ne pas risquer le brouillage, ni devenir notre propre bruit. Non? Si, très bien, allons-y. Mettons-nous à parler. Dehors, plus de GPS ni de caméras de surveillance. Ici, le mur nous cache, la musique noie nos paroles. Profitons-en. Revenons d'avant en arrière, d'avant sur les côtés. Explorons et rembobinons. Examinons les parasites. Voyons si le terrain est piégé. Qui va là? L'autre, en face. Nous désirons être embrassés sans être vus. Nous avons peur d'un rien, d'une ombre, d'une silhouette. Offrons nos cœurs à chaque flux. Qui va là? D'abord, il faudrait s'entendre sur les mots, ceux de la peur et de l'inquiétude, du besoin, du désir. Tous ces nœuds de tension, cette vapeur indécise. La peur vise le danger, vérifiable, immédiat. L'inquiétude, la peur de la peur. Si des bombes s'attaquent sur la ville, si un virus attaque, c'est de peur qu'il s'agit. Si le pays est en paix, si personne n'est malade, en dehors des limites, la bombe dans son usine ou sous le ciel voisin relève de l'inquiétude. Avant le printemps perpétuel, ce n'était pas de la peur dont nous nous inquiétions, plutôt de l'inquiétude, non? Le mot est faible. Quel mot? D'abord, il faudrait s'entendre. Silence en apparence. Mais nous réfléchissons. Nous parlons de l'inquiétude qui conquiert le terrain que nous n'arpentons pas. Nous parlons du terrain qui n'est autre que le corps, mais c'est aussi la ville, cette ville planétaire dont nous ne saurions plus dire si elle est à défendre ou à fuir. Nous ne pouvons prédire si de notre vivant la mer va recouvrir la ville se jeter dans une faille, si un nuage toxique n'empoisonne pas déjà les champs et les rivières, sans qu'on n'en sache rien. L'inquiétude, ce sont les questions, les boucles qu'elles forment. Dans la peur de ne pas trouver sa place, de faire un avec le trottoir, nous nous exhortons, exaltons. Elle fait penser haché, et nos pensées s'émiettent. Nous scandons, répétons qu'il nous faut prendre soin de nous, lorsque nous avançons, de nos familles, nos murs. Le plus possible, nous regardons des écrans dans le creux de nos mains, des chaussées, des carrefours, eux-mêmes livrés à l'inquiétude. Dans le creux de nos mains, de nos murs, de nos arbres, apparaissent pour nous distraire des animaux, des enfants rieurs, des couples parfaits. De nous, de nos familles. La page se recharge, tout se délite. Les animaux sont en voie d'extinction, les enfants souffrent de maladies qu'on ne sait pas guérir. Nous avons peur des coups. Que faire? Payer pour aider, propose la page. Ou signer, ou se taire, ne pas croire, passer à autre chose. Réinventer les corps. Nous avons peur des coups. Mais non. Rafraîchir le flux nous semble plus facile. Nous évitons le caniveau tout en continuant à marcher, à recharger la page sans regarder nos pas. L'inquiétude est une marchandise qui nourrit son homme, ne coûte rien. Elle revient chaque fois et avec elle l'angoisse. Nous avons peur. Comme si la musique ne pouvait plus ni s'écrire ni se jouer, ou ne s'arrêtait plus. Musique des histoires qu'on se raconte pour conjurer l'effondrement, fanfare qui prend la place de la musique véritable, celle qui cherche sa forme, se répète et hésite. Peur, inquiétude, désir, besoin. Les mots sont des mines, mais nous parlons, enfin. Nous nous racontons quelque chose, avec nos mots remis à neuf, parmi les choses trappes, les pièges. L'îlot devient... Dans l'angoisse des virus, de la contagion, de la contamination, ce qui se renouvelle sans se faire écraser. Dans la peur que la Terre nous lâche, cellules et oxygène, ce qui cherche à tâtons. Nous désirons la foison, la profusion, absorption de nos corps, dans un plein rassurant. Ce qu'il nous faut vraiment. Il faut marcher des heures pour s'en débarrasser. Il nous faut de la chance et de l'enchantement. Ce qui s'avoue à soi-même, et ainsi se délivre. L'îlot de fraîcheur sera bordé d'un mur, pour nous faire un peu d'ombre, mais contiendra aussi un seuil. Comme les chats, nous pourrons entrer et sortir sans donner de raison. Nous pourrons dormir dans ces recoins, cachés, sans qu'interfère, le mot « effondrement » vient nous serrer la gorge. L'abondance est un mot qui revient dans nos rêves. Ni la peur, ni le désir qu'elle suscite. Nous aurons tous l'esprit au large. Il suffira de le décider. Nous sommes sensibles à l'invisible. Qui pour chanter nos tours de force? Ainsi nous parlons. Nous rêvons. Nous ne sommes pas toujours d'accord et parfois nous devenons sourds. Souvent, nous nous trouvons raides, médiocres, petits joueurs. Nous manquons de pratique, nous sentons empoulés, suspicieux de nous-mêmes. Et si chacun de son côté recommençait à empiler, à empoisonner le trésor? Mais le temps nous convient, et la musique existe. Nous ne sommes plus un corps découpé en morceaux, ou un esprit paralysé. Notre langue redevient fluide. Nous circulons sans frénésie. Nous poursuivons la visite de l'îlot, dont nous ne disons plus qu'il est à l'abandon car il ne l'a jamais été. Les murs laissent entrevoir des portes. La fraîcheur s'étend peu à peu.